MCI TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour chez vous, bienvenue pour cette nouvelle émission de vendredi. Alors le vendredi, on a C'est mon histoire, mais on a aussi des thèmes qui sont parfois plus précis, plus ciblés par rapport à ce que vous pouvez vivre. Et aujourd'hui, on va parler des familles compliquées, les familles dysfonctionnelles, et on veut vous dire que vous n'êtes pas voué à l'échec, peu importe d'où vous venez. On a parlé de l'échec cette semaine, de l'échec en cycle. Eh bien aujourd'hui, on veut vous encourager à savoir que peu importe la famille que vous avez, peu importe le bagage familial que vous transportez, vous n'êtes pas voué à l'échec. Et je suis avec Nadine et Freddy. Bonjour à tous les deux.
Nadine,
eh ben pour une première semaine de chroniqueur, on t'a gardé toute la semaine.
Toute la semaine. J'aurais même voulu faire le samedi aussi. C'était tant qu'à faire.
Tu peux venir demain.
Je viendrai.
Je ne garantis pas d'être là.
Je veux tout faire.
On ne l'arrête plus.
Je veux tout faire.
Bon, ça s'est bien passé cette première semaine en tant que chroniqueur.
Oui, ça, c'est juste superbe. C'est super d'être là, dans cette équipe-là. On apprend plein de choses, c'est riche, c'est différentes personnes, différents profils. Donc vraiment, je suis tellement content et je rends grâce à Dieu pour ça.
Ah, c'est cool. Bah, on est très contents aussi. Et puis aujourd'hui, c'est ça que j'ai dit, c'est mon histoire. Alors, c'est mon histoire, c'est celui d'Alexandre aujourd'hui. Alexandre a une histoire incroyable. Il a vécu énormément de choses et je vous le dis déjà. Ce n'est qu'un extrait de son témoignage qu'on va regarder tout à l'heure après l'émission. Demain, vous aurez la version longue de son histoire qui dure, je pense, plus de 30 minutes, si je ne me trompe pas. Donc, vous comprendrez qu'on a fait la version courte. Mais c'est un témoignage vraiment que je vous invite à aller voir au complet parce que c'est vraiment juste un extrait qu'on va diffuser aujourd'hui. Mais vous allez voir déjà comment Dieu a agi dans sa vie alors que c'était tellement mal parti pour lui. Mais le Seigneur a été fidèle. Mmh. Et Nadine, je me tourne vers toi pour que nous puissions commencer cette émission avec la pensée du jour.
Et oui, comme Yveline l'a dit, même si tu viens d'une famille compliquée, dysfonctionnelle, tu n'es pas obligé de porter le fardeau de cet héritage-là. Avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, tu commences une nouvelle lignée, quelque chose de nouveau commence avec toi. Il y a un nouveau bagage que tu reçois, c'est la grâce, c'est la faveur de Dieu. Et tous ces liens, toutes ces addictions, toutes ces choses que tu as pu transporter avec toi s'arrêtent alors que tu donnes ta vie au Seigneur. Alors qu'on fait cette pensée, cette émission autour de ce thème, j'avais à cœur de partager avec vous un verset qui se trouve dans Jean 1, les versets 45 à 46, deux versets donc, Jean 1, 45 à 46, il le dit. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui répondit, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Évidemment, Nathanaël va aller, il va rencontrer Jésus et il va le connaître. Et on connaît la suite de l'histoire, il devient disciple. Mais ce que je voulais ressortir à travers ce verset, c'est le fait que des fois, les gens vont nous étiqueter. Ils vont nous étiqueter d'où on vient. On vient de quel village, de quelle ville. Est-ce qu'on a grandi en campagne, on a grandi en banlieue, on vient de quel quartier. Et des fois, ces choses-là vont être des étiquettes sur nos vies et avec lesquelles on va porter. Et avec ces étiquettes-là, on va nous dire, toi, tu ne peux pas faire ceci. Toi, tu ne peux pas aller jusque-là parce que tu viens d'un tel milieu et tu reçois déjà une étiquette. Mais des fois aussi, l'étiquette vient de nous-mêmes, qui nous la posons parce que nous sortons d'une famille difficile, une famille où l'environnement était malsain, une famille compliquée, une famille dysfonctionnelle. Et lorsque nous sortons de ce type de famille-là, nous pouvons vivre certains défis. Et j'aimerais juste partager avec vous trois défis et évidemment vous donner la solution pour ça. Le premier défi qu'on peut vivre va être l'instabilité. Lorsqu'on vient d'une famille compliquée, une famille dysfonctionnelle, beaucoup des gens qui ont grandi comme ça, dans une atmosphère où quand ils étaient, c'était pas stable, il y avait des cris, il y avait des fois on déménageait tout le temps, il y avait rien de constant, il y a des fois de l'instabilité qui va être là. Des fois des paroles dévalorisantes. Souvent lorsqu'on vient, on voit des gens qui viennent de ce type de famille, c'est qu'ils ont grandi avec des paroles dévalorisantes, des paroles de mépris constamment, ils ont tout le temps été rabroués, ils ont tout le temps été brimés. Des fois, c'est aussi qu'ils n'ont juste tout simplement pas eu accès à certaines opportunités, au niveau scolaire, peut-être au niveau même sportif, des activités, etc. Et tout ça, c'est des conséquences, en fait, des défis, pardon, qu'on vit lorsqu'on on sort de ces familles-là. Et les conséquences, évidemment, ça va être une mauvaise estime de soi-même. Et les conséquences vont peut-être même des addictions, comme on va le voir dans le témoignage de tout à l'heure. Mais il y a une bonne nouvelle, peu importe l'environnement d'où tu viens. La bonne nouvelle, c'est que où les statistiques t'ont condamné, Dieu, lui, il change la donne pour toi. Parce que plus tard dans Acte 4, verset 13, la Bible dit « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. » Des personnes qu'on aurait pu dire « Est-ce qu'il peut venir de Galilée quelque chose de bien ? Est-ce qu'il peut venir de Nazareth ? Est-ce qu'il peut venir de tel quartier quelque chose de bien ?» Ces gens-là, parce qu'ils ont été au contact de Jésus, on les a tout de suite reconnus comme étant « Oh, on connaissait leur passé, on connaissait l'étiquette qu'on leur avait donnée, mais quel étonnement parce qu'ils agissent d'une manière complètement différente de ce que nous, on avait prévu selon nos statistiques. » Et j'aimerais vraiment parler de la part de Dieu à quelqu'un. Alors que tu es là et tu dis « Oui, c'est vrai que moi, je viens d'une famille compliquée. Peut-être que moi, je viens d'un quartier compliqué. Peut-être que moi, quand j'envoie un CV et qu'on voit mon adresse, personne ne va me rappeler. Mais j'aimerais te dire alors que tu tiens la main du Seigneur, le Seigneur change les choses en ta faveur. Et Dieu qui est ton Père céleste, Jésus-Christ qui est ton grand frère, tu es dans cette lignée-là et le succès est ton partage. »
Amen. Merci Nadine. Merci. J'ai une amie, je lui dis souvent, toi t'es un miracle sur pattes parce que je vois d'où elle vient, la famille qu'elle a eue, où elle a grandi, même l'état de son frère, et je la vois elle et je dis mais comment t'as fait ? C'est incroyable et c'est miraculeux en fait. Et parce que, je veux dire, quand tu regardes l'environnement dans lequel elle a grandi, tu te dis elle devrait arriver avec tout un tas de bagages émotionnels, de défis, de choses à transformer, des mentalités, des choses. Eh bien non, elle va très très bien et même elle est une source de bénédiction. Wow. Et tu regardes des gens comme Joyce Meyer, tu connais leur parcours. Et tu te dis, ben oui, elle a vécu tellement de choses difficiles, l'inceste et tout ce qu'elle a vécu. Et tu vois la femme qu'elle est aujourd'hui. Et je me dis... on ne peut pas excuser qui on est en se disant c'est à cause de mes parents, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a un impact sur ta vie, mais en fait, quand tu deviens chrétien, chrétienne, quand tu donnes ta vie au Seigneur, ton père devient le Dieu créateur de l'univers. Ton grand frère devient Jésus-Christ, le Seigneur du monde. Mais oui, ta famille est parfaite, en fait. Et tu as un héritage spirituel qui est transmis par le créateur de l'univers et le sauveur du monde. Et là, tu te dis, OK, tu remets les choses dans une bonne perspective. Et j'aimerais qu'on puisse regarder notre verset du jour. 1 Samuel 9, au verset 21. Saül répliqua. Vous savez, Saül avait une grande destinée. Saül dit, que dis-tu là ? Ne suis-je pas, un benjaminite de la plus petite des tribus d'Israël ? Et ma famille n'est-elle pas la moins importante de tous ceux de ma tribu ? Pourquoi donc parles-tu de cette manière ? En fait, Saül était appelé à être roi, à régner sur tout Israël. Mais lui, la façon dont il se voyait au travers de son héritage familial, de sa famille. Et il se voyait comme rien du tout. Et il se disqualifiait à cause de ça. Et il s'était déjà condamné à l'échec à cause de cet héritage familial.
C'est le même cas que Gédéon. Hein. Gédéon, la même chose. Hein. Pareil, une famille... entre guillemets dysfonctionnel, avec beaucoup de carences, beaucoup de manques. Et pareil, ça lui a forgé un système de pensée dans lequel il était le plus petit, insignifiant, incapable, sans façon. C'est une réalité. C'est vrai que la famille dans laquelle j'évolue détermine aussi où j'en arrive à m'emmener dans ma vie.
Bien sûr.
Que l'héritage culturel, biologique, il est certain. Par contre, une chose est certaine, c'est que... dès l'instant où je viens à Christ, je change de famille. Donc mon héritage, tout mon patrimoine génétique, tout change en réalité. Et là, maintenant, je dois partir d'un nouveau départ. En fait, je prends un nouveau départ qui n'est plus celui de mon père biologique, de ma mère biologique, peu importe ce qu'elle a pu faire. J'aimerais vous dire une chose, dans la vie, on ne donne que ce qu'on a reçu. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu ou ce qu'ils n'ont pas pu faire parce qu'ils ont eu les moyens qu'ils avaient, mais vous êtes arrivé en Christ aujourd'hui. Et en Christ, votre héritage n'est plus le même, il a totalement changé en fait. Il faut commencer par accepter cette nouvelle identité. J'ai rencontré plusieurs personnes qui aujourd'hui sont arrêtées dans la vie et ils blâment leurs parents, leur père, leur mère ou leur grand-mère pour ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils n'ont pas eu. Mais j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas obligé de faire de votre passé votre avenir en fait. Votre passé vous a amené là où vous étiez, c'est vrai, mais votre avenir dépend de vous et de votre foi en Christ, et de sa capacité à... Il a déjà tout fait pour vous en réalité. Maintenant, c'est à moi d'accepter que OK, ma famille est celle qu'elle est, mais j'en ai une autre par la grâce de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. J'ai tellement aimé ce que tu as dit. J'ai pour Dieu le Père, grand frère. J'ai un grand frère comme Jésus-Christ, mais comment je peux échouer dans la vie? C'est impossible. Mais il faut accepter ça, que tout a changé, que j'ai droit à une vie nouvelle.
Mmh. Est-ce que j'aime, tu parlais tout à l'heure de Joyce, et quand on peut aller sur Internet, hein, si on est une personne qui vient d'une famille compliquée comme ça, et qu'on est accablé en se disant, ben, parce que c'est vrai, les conséquences peuvent être là, mais mon parent ne m'a pas envoyé à l'école alors que j'avais un potentiel, je n'ai pas réussi, j'avais peut-être des forces sportives, j'aurais pu être le prochain grand joueur, je n'ai pas pu parce qu'on n'avait pas l'argent pour m'acheter les bonnes chaussures. Des fois, on est là et puis on se dit, mais ma vie aurait pu être... prendre une autre direction si j'avais eu le bon point de départ. Mmh. Mais je crois que tu peux aller sur Internet rapidement et faire une recherche et voir les gens qui sont partis de rien. Ouais. Et même dans le monde, pas des chrétiens, il y a des gens qui sont partis de rien, qui sont partis de la pauvreté.
Michael Jordan, il était très pauvre.
LeBron James aussi. Pareil.
Voilà, il y a plein de gens.
Vous les connaissez
qui sont partis de rien, mais dans tous les domaines, que ce soit des acteurs, des sportifs, des hommes d'affaires, etc. Dans tous les domaines, il y a des personnes qui ont réussi à ne pas laisser leur passé les enterrer, mais pourtant les propulser. Et je crois que nous, alors qu'on connaît le Seigneur, c'est différent. On a en plus la grâce d'avoir Dieu de notre côté et aussi d'avoir le Saint-Esprit qui est celui qui vient guérir nos cœurs, qui est celui qui vient nous restaurer. Parce que des fois aussi, on vient au Seigneur et on croit on a la nouvelle naissance et on croit qu'on sera au paradis, on sera au ciel, nanana. Mais on a l'impression qu'on doit nous-mêmes se débrouiller dans la vie, en fait. Et ces crevasses-là qu'on a dans notre âme, que ce soit ce manque d'estime, que ce soit tous ces traumatismes que l'instabilité a créé, tu vois, dans une maison dans laquelle on crie tout le temps, etc. Oui. C'est des choses qu'on a entendues en tant qu'enfant alors qu'on était vulnérables, quelque part, nous ont laissé des marques au fer rouge. Oui. Et ça, c'est pas les gens qui vont le changer, c'est Dieu qui va le faire. Mmh. Et donc, c'est de dire aussi, Saint-Esprit, oui, je crois que je suis né de nouveau par la foi, je crois que mon nom est inscrit dans le livre de vie, mais dans mon quotidien, maintenant, aujourd'hui, là, en date d'aujourd'hui, on fait quoi? Et tu vas voir que le Saint-Esprit va venir alors que tu lui ouvres ton cœur, il va te guérir. Et c'est comme ça que ton passé deviendra juste une histoire, un témoignage, un apprentissage, quelque chose que tu n'auras pas honte de dire, mais oui, moi, j'ai pas toujours eu tout ce que j'avais, j'ai pas toujours parlé comme ça parce que voici ce qui est arrivé, etc. Et même les conséquences de ton passé, tu vas plus les vivre. Mmh. Comme on parlait dans le témoignage d'aujourd'hui, il est passé par des addictions, Alexandre. Il est passé par des addictions, mais il s'en est sorti, en fait. Oui. Et vraiment, c'est important de se dire ça, parce qu'on est humain, et on regarde autour de nous, on se dit, les étiquettes, les gens nous les donnent, mais des fois, c'est nous-mêmes qui nous les donnons. Oui, mais alors qu'on connaît le Seigneur, vraiment, il faut changer de langage.
Oui. Et j'ai vu une illustration sur les réseaux sociaux qui m'a beaucoup parlé. Je vais vous l'expliquer parce que je n'ai pas le matériel à portée de main. Mais en fait, c'était comment transmettre des blessures émotionnelles de génération en génération. Je te l'avais envoyé, elle m'avait beaucoup parlé. C'était un verre avec un liquide foncé à l'intérieur. Et on voyait, c'est la grand-mère, c'est le verre. Elle verse ça dans sa propre fille, qui est donc la mère. Elle lui transmet ce bagage, ces blessures émotionnelles. La mère transmet à sa fille. Wow. Et sa fille, en fait, elle a le choix à ce moment-là. Elle peut le transférer à sa propre fille ou son propre fils, peu importe, ou elle peut choisir qu'à partir de ce moment-là, elle demande au Seigneur de guérir son cœur. Et là, en fait, on prend un verre d'eau, un pichet d'eau, et en fait, on lave jusqu'à ce que l'eau devienne transparente. Et là, on transfère ça à sa propre fille. Et je crois qu'il y a des moments où il faut se positionner. Si on ne veut pas le faire pour nous-mêmes, on peut le faire pour nos enfants. Oui. De dire, j'arrête ce cycle-là. Oui, j'ai eu des mauvais parents qui n'ont pas bien pris soin de moi, qui m'ont peut-être maltraité. Mais moi, quelle mère, quel père je veux être pour mes enfants? Quel bagage émotionnel je veux transmettre à mes enfants? Et là, tout à coup, on prend une autre dimension. On se dit, je choisis maintenant de guérir toutes ces blessures émotionnelles, tous ces manques que j'ai pu avoir, tous ces traumatismes que j'ai pu avoir. Je choisis de guérir d'abord pour moi-même, mais pour mes enfants, pour ne pas leur transférer ça. Et là, ça devient puissant. Là, ça devient une vraie transformation. Et là, on peut dire, cet héritage n'est plus le mien. Je coupe avec ça. Et c'est un processus. Je vous dis pas que ça va se passer du jour au lendemain. Bien sûr, vous devenez chrétien et tout à coup, les papillons volent dans le ciel. Non, votre âme a besoin de vivre une guérison. Mais le Seigneur n'attend que ça, que vous lui apportiez ces traumatismes, ces blessures, ces manques, ces besoins non pourvus, vous lui apportez les uns après les autres. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui remonte dans votre cœur, une réaction que vous avez, quelque chose qui se passe, Seigneur, pourquoi je réagis comme ça? Dis-moi. Et là, le Seigneur vous dit, tu sais, quand tu as vécu ça, voici ce que tu as vécu, mais maintenant, laisse-moi te guérir. Et le Seigneur vient et met son baume de guérison, étape par étape, il va vous guérir et vous pouvez vivre une transformation et oui, comme Joyce Meyer, devenir cette femme qui va enseigner les autres.
Monde et,
c'est exceptionnel.
Il n'y a aucune fatalité en réalité dans ce que vous vivez. J'ai envie de dire à quelqu'un qui nous suit, peu importe comment tu es venu au monde, Dieu voulait que tu viennes au monde. Mm-hmm. Parce qu'on l'appelle le réparateur des brèches, en fait. Donc, peu importe les brèches que la vie vous a données, Dieu peut les réparer, les restaurer, les résoudre. Seulement, il faut vouloir. Il faut le décider, il faut l'accepter. Et quand on rentre dans ce processus-là de restauration qui est primordial, comme tu l'as dit, quand on y est, Dieu vous restaure et c'est juste merveilleux après.
Amen, amen. Vraiment. Et on va regarder, comme je vous l'ai dit, les témoignages d'Alexandre. Je le redis, ce n'est qu'un extrait de son histoire, que le début de sa vie. Et donc, je vous laisse découvrir. Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre. Comment vas-tu ?
Ça va bien, toi, Evelyne ?
Ça va très bien. Merci d'être là. C'est un plaisir de t'accueillir.
Ça me fait plaisir.
Avec un témoignage vraiment très, très fort. Tu as tout un parcours. Et au milieu de ce parcours, tu as vécu une expérience très forte, une expérience de mort imminente dont on parlera tout à l'heure. Mais avant ça, on va rentrer un peu dans le contexte de ton histoire parce que ce qui t'a amené à vivre ça, ben c'est la conséquence de plusieurs aventures que tu as vécues, plusieurs choix que tu as faits, pas toujours les bons. Et premièrement, toi, tu es née dans une famille qui était pas chrétienne. Tu avais une maman qui souffrait par moments de périodes de dépression, un papa assez absent. Mais comment ça se déroulait un petit peu ton enfance?
Ben, dans le fond, ça se déroulait que oui, mes parents, ma mère... Elle avait beaucoup de charges à la maison, mon frère à s'occuper, et puis il y avait beaucoup de problèmes financiers aussi à l'époque. Et puis mon père, ben il se donnait à 100% au travail pour nous nourrir, justement.
Ben oui.
Et puis ce qui a fait que ma mère, avec les charges qu'elle avait, elle a fait plusieurs dépressions par la suite. Puis moi, mon frère, on était pas les plus faciles non plus à vivre. Puis aussi avec les amis qu'on avait dans notre entourage... C'était pas facile. On a commencé à avoir des mauvaises fréquentations. Puis c'est là que les travailleurs sociaux ont commencé. J'avais 6 ans, moi. Ils venaient à la maison nous rencontrer. Et puis, ils essayaient de trouver des solutions pour nous aider, dans le fond. Mais puis ça s'est fait qu'en grandissant, ben ça n'a jamais vraiment réglé les problèmes. On a grandi avec ces problèmes-là aussi. Puis ma mère, elle a continué à avoir les dépressions. Et puis... À un moment donné, ben c'est ça. Ma mère a une sœur qui était chrétienne. Et puis, elle venait souvent à la maison nous témoigner de Jésus. Mais comme dans le temps, les gens disaient que c'était des lavages de cerveau, dans le fond. Fait que la porte tout de suite était fermée à ça. Mais elle nous invitait souvent à Noël à aller à l'église. Et puis, on y allait. Mais tu sais, moi, ça m'a toujours travaillé. J'avais toujours cette soif-là de Dieu en dedans de moi. Et puis... j'ai grandi avec ça. Puis à l'âge de 10 ans, je me souviens, ma mère, elle m'envoyait passer un été chez ma tante, les vacances.
Comme des petites vacances,
c'est ça, exactement. Et puis, cette tante-là, c'est ça, on habitait loin. Là, fait que c'était un gros voyage pour moi. Et puis, on est allé là pour faire reposer ma mère aussi, là, parce que avec tout ce qu'elle vivait, là. Et puis, c'est là que ma tante, elle m'a parlé de Jésus, puis ça a travaillé mon cœur, puis j'ai eu la soif tout de suite d'aller chercher une Bible à la librairie. On est parti chercher une Bible, puis c'est là que j'ai accepté Jésus dans ma vie.
Donc là, tu avais 10 ans, c'est
ouais,
ça?
Oui, j'avais 10 ans, puis ça, je vais m'en souvenir comme si c'était hier. Wow. Puis quand je suis retourné à la fin de mes vacances à la maison, je suis retourné en feu, là, vraiment, j'aimais le Seigneur, puis je lisais ma Bible à la maison, mais ça n'a pas pris le temps que ma mère... commencé à dire, c'est quoi ça? Pourquoi t'as une Bible, tout ça? T'sais,
ça l'inquiétait un peu, l'a choqué, en fait. Pour, toi, pour elle, tu t'étais fait laver le cerveau un peu
par
ta tante.
Ça l'a dérangé. Donc, j'ai commencé à délaisser le Seigneur. Puis j'ai retourné dans mes vieilles habitudes.
C'est ça. T'étais jeune. Comment ça se passait à l'école à ce moment-là, dans ces années-là?
Ah, à l'école, j'ai toujours eu de la difficulté à l'école. Mais t'sais, plus que t'as dit de la difficulté... Bon, mais plus que ça tente moins d'aller à l'école.
Exactement.
Puis t'as pas de support non plus, donc j'ai commencé un peu avec les amis qui avaient alentour, on niaisait. Puis ça, quoi, j'étais un peu pas loin de la 6e année, là, je m'en allais au secondaire, et puis...
Tu commençais à faire beaucoup de bêtises. C'était quoi les bêtises que tu faisais quand t'étais petit à ce moment-là?
Ah, ben, on commençait à consommer légèrement de la drogue. Et puis,
déjà jeune comme ça.
Ah hein? Oh, oui, on cassait des vitres après les maisons.
Vous traîniez beaucoup dans les rues.
Exactement,
tout ça.
Exactement. Okay. Puis, on n'était pas du monde non plus envers nos parents. Moi, j'étais une personne qui était violente aussi. Mm. J'avais un comportement agressif.
OK.
Puis j'étais agressif envers ma mère. T'sais, ma mère, il y avait comme plus d'autorité non plus sur nous, puis sur moi, mon frère, tu sais.
Ça devenait vraiment difficile, l'ambiance à la maison, j'imagine.
Oh, vraiment, vraiment difficile. Puis tu sais, j'ai un grand frère. Puis tu sais, en tant que frère, on se chamaille toujours. Mm-hmm. Tu sais, ben, en tout cas, nous, c'était plus que pas assez, là.
OK.
Puis ça l'a dérangé énormément, mes parents. Puis un soir, je vais toujours m'en souvenir, là, ils ont décidé qu'ils appelaient la DPJ, puis ils sont venus nous chercher.
Le service de protection de l'enfance?
Ouais, exactement.
Ils sont venus vous chercher?
Ils sont venus nous chercher le soir même, puis là, ils ont commencé à nous placer dans les familles d'accueil.
Ça, c'était une période dont tu te souviens, c'était difficile à vivre pour toi à ce moment-là?
Moi, ça a été difficile, ça a été une déchirure, une grosse blessure, parce que, tu sais, quand t'es enfant, tu comprends pas nécessairement ce qui se passe, pourquoi que ça arrive. Puis tu sais, moi, même si j'étais violent envers mes parents, j'étais attaché à ma mère beaucoup. Puis ça a été une grosse blessure pour moi.
Mm.
Puis c'est là que les détachements ont commencé à se faire. Tu sais, on pense en tant que parent que ça va aider, mais ça crée d'autres problèmes parce que quand t'es avec d'autres jeunes qui ont des problèmes, bien souvent, ça crée d'autres problèmes.
C'est ça, tu t'es fait influencer, t'as connecté Exactement. Avec des jeunes qui n'étaient pas forcément fréquentables.
Exactement.
Et là, en fait, au lieu d'améliorer ta situation, ça empire. Comment ouais. À quoi elle ressemble ta vie à ce moment-là?
Ben, en sortant des familles d'accueil, ben, il y a un gros poids qui a été sur mes épaules longtemps, ça a été la déchirure avec mon frère.
Mm.
Ça a été une grosse blessure, parce que mon frère, c'était mon frère, là. Puis cette séparation-là, elle a été dure pour moi jusqu'à récemment. Il a fallu que je pardonne mon frère parce que mon frère aussi, il a fait ses choix de vie.
Mm-hmm.
Puis on n'a plus jamais été aussi proche que...
Quand vous étiez petit, en fait.
Oui, c'est ça.
Mm-hmm.
Puis ça l'a pesé beaucoup dans mes choix. Beaucoup de colère, beaucoup de frustration par rapport à ça, tu sais.
Mm-hmm.
Puis là, c'est là que les gros problèmes de drogue ont commencé, là, quand même.
Quand tu parles de drogue, c'était vraiment de la drogue dure à ce moment-là?
Bien, à ce moment-là, c'est... De la marijuana.
Mm-hmm.
C'était pas de la grosse drogue dure, là, mm-hmm. mais c'est quand même. On consommait beaucoup, puis j'avais quoi, 12 ans, là, puis.
C'est fou.
Puis à l'école, j'étais un gros zéro, là. J'étais vraiment pourri à l'école. J'étais tellement pourri que les professeurs, ils me voulaient plus dans leur classe, là. Je passais mes journées en salle de réflexion. Mon avenir, elle s'annonçait pas belle.
Vraiment. Vraiment. Donc finalement, t'es rejeté un peu de chez toi, t'es rejeté un peu de l'école. Il y a personne qui sait quoi faire avec toi, comment gérer. Et là, il va se passer un élément quand même assez important dans ta vie.
Ouais. Rendu secondaire 2, mm-hmm. ben je commence. Parce que moi, j'ai fait le pré-secondaire. J'ai comme fait 3 années de secondaire.
Donc là, t'as à peu près 13 ans à ce moment-là, c'est
ça? 13-14 ans.
Mm-hmm.
J'avais encore des rencontres avec la DPJ. Mais moi, j'assistais plus à ces rencontres-là. Là. Je voulais plus rien savoir. Donc, ma mère, avec ma mère et mon père, ont décidé avec l'intervenante à place de me placer à la DPJ,
mm-hmm.
De me placer chez ma tante.
OK. Ta fameuse tante chez qui tu étais allée quand tu avais 10 ans.
Exactement.
D'accord.
Elles, ils ont accepté de me prendre. Mm. Et puis, moi, c'est sûr que je voulais pas. Là. Je voulais pas m'en aller là. Je savais c'est quoi qui m'attendait.
Mm-hmm.
Puis là, finalement, j'ai pas eu le choix de suivre. Fait qu'ils m'ont envoyé là à l'âge de 14 ans. Puis j'ai habité 3 ans là.
Mm.
Puis ça a été des plus belles années de ma jeunesse. Parce que ils ont vraiment planté l'Évangile en moi. Et puis j'aimais le Seigneur. Je servais le Seigneur à l'Église. Ah, ça a été vraiment les belles années de ma jeunesse.
Wow. Et même au niveau de l'école, il y a eu une vraie transformation.
Exactement. Moi, j'ai reparti au secondaire 2. J'ai recommencé à zéro.
Okay.
Puis j'avais aucune notion de base. Là. Je connaissais rien. Et puis, à tous les matins, avant de partir à l'école, on priait. Quand on parle de paroles de vie, c'est tellement important parce mm-hmm. que on déclarait des paroles de vie sur ma vie à moi.
Mm-hmm.
Et puis, je partais à l'école, puis j'ai bâti une confiance en moi.
Mm-hmm.
Puis, à l'école, je réussissais tout ce que je faisais. C'est
fou. C'est incroyable parce que t'étais le dernier. Les professeurs ne savaient plus quoi faire avec toi. Et tu vas finir même, tu me disais, le premier de la classe.
Exactement. Je me suis en histoire. J'ai trippé histoire. Là. J'avais des 100%. J'ai même fait un des plus beaux projets là, que le professeur a gardé pour montrer aux autres élèves.
Wow. Pour toi, c'était une transformation complète.
Ah ouais.
T'es ému là parce qu'en fait, pour la première fois, on voyait ta valeur et puis on laissait sortir en fait les bonnes choses que t'avais en toi, c'est ça?
Ouais, exactement. Parce que tu sais, c'est ça, j'avais plus aucune confiance en moi. Tu sais, ma valeur c'était dans la drogue. Je connaissais rien d'autre que ça, m'amuser puis triper. Puis mais là, j'ai vraiment connu le sens réel de la vie. Là, tu sais.
Tu as restauré la relation aussi vraiment avec tes parents, c'est ça?
Exactement. Aujourd'hui, mes parents, ils ont déménagé aussi de l'Abitibi-Témiscamingue. Mm-hmm. Ils ont déménagé, on habite proche l'un de l'autre, puis la relation est super. Puis mon père, il est heureux aussi d'être ici. Ma mère, elle est vraiment heureuse. Mm-hmm. Ils sont heureux de me voir comme ça.
Ben vraiment.
Ouais.
Ils ont dû tellement s'inquiéter pour toi, c'est sûr.
Ah oui, ils en ont eu des nuits à pas dormir. Là.
J'imagine. Ouais. Mais vraiment, Alexandre, merci. On rend vraiment toute la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. C'est presque un film, hein, ton histoire. On se dit, c'est incroyable. Et vraiment, merci Seigneur pour cette transformation qu'il a fait dans ta vie. Et merci à toi d'être venu à nous le raconter dans C'est mon histoire.
Ben, ça me fait plaisir, mais je peux-tu juste rajouter quelque
chose? Bien sûr.
C'est là qu'on voit l'importance des paroles de vie. Aujourd'hui, ben, même avec mes enfants, je revois mon passé, mais aujourd'hui, mes enfants, vous êtes des champions. T'sais. C'est tellement important de faire ça, puis de croire en nos enfants, mm-hmm. puis de pas les laisser, de bien les encadrer, parce que c'est pas trop long que l'ennemi vient voler les trésors que Dieu nous donne.
T'sais. T'as raison. Vraiment, de déclarer des paroles de vie.
Exactement, c'est tellement important, puis c'est vrai, là, c'est des paroles de vie. Là. Mm.
Merci Alex, merci infiniment d'être venu. Hein.
Mais ça me fait plaisir, merci de m'avoir reçu.
Avec joie, vraiment.
Magnifique. Eh bien voilà, alors le témoignage est déjà extraordinaire, mais comme j'ai dit, c'est qu'un extrait, parce qu'en fait il va se passer tout un tas d'événements encore dans sa vie après son retour de chez sa tante, et j'en parle au début dans l'introduction, jusqu'à une expérience de mort imminente. Donc je vous encourage vraiment à aller écouter le témoignage au complet demain, ça sort sur YouTube et sur EMCI TV. Et pour conclure, si vous voulez bien, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour ceux qui ont peut-être un bagage très très lourd avec eux. On va prier avec nous à la maison. Père, je viens te remettre toutes ces personnes qui suivent cette émission et qui se sont reconnues dans tout ce qui a été dit. Tous ces bagages, toutes ces blessures, toutes ces souffrances qu'ils portent à l'intérieur d'eux. Père, aujourd'hui, qu'ils puissent te les remettre entièrement. Père, je te demande de venir guérir les blessures les plus profondes, de venir déraciner toute la souffrance, tout le rejet, tout ressentiment, toute haine qu'il y a dans leur cœur. Et j'appelle, Seigneur, ton manteau d'amour, ton manteau de joie, ton manteau de paix qui vient et qui les recouvre complètement. Peu importe le bagage qu'ils ont eu, peu importe ce qu'ils ont subi, Père, c'est toi qui viens combler leurs besoins les plus profonds, les plus secrets. Tu les connais, Seigneur. Merci pour ce que tu opères maintenant dans leur cœur, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Merci, Seigneur.
Amen.
Merci à toi, Freddy, vraiment. Merci, Nadine.
Bonjour.
Et que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.